répondre un petit peu à Bernard Calaoura, parce que il me semble que, en fait, on a assisté à deux formes d'objectivation de cette histoire de Notre-Dame-des-Landes. Une avec laquelle on est plutôt familier, donc la première, et une avec laquelle, comme tu le dis, qui est plus perturbante. Elle est plus perturbante, mais en fait, quand moi je relis mes notes, je me rends compte que il y a plein de choses que j'ai notées qui touchent à ce dont on a parlé ce matin. Par exemple, à ce que le commun serait le produit de situations, première chose. Deuxième chose, que finalement ce commun était fragile et que la construction de ces situations est sans arrêt remise en question par les pratiques. Et là, il y a une chose à mon avis qui est importante, c'est l'irruption d'un contre-commun, d'une certaine manière, avec l'intervention du gouvernement, qui essaye de défaire ce qui se fait et qui révèle en négatif les fragilités qui étaient latentes et qui permet de comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre dans une construction idéalisée ou disons, on va dire, enchantée des communs. Et il me semble que ça c'est très important parce que ça permet d'apporter des éléments de réponse à des questions qu'on se posait ce matin. Une dernière chose, c'est par rapport à la question des institutions aussi qui était abordée ce matin, c'est-à-dire, et c'est en ça que l'optique, disons, de la journée, c'était aussi d'attaquer cette question-là, c'est-à-dire de l'institutionnalisation et de la capacité au commun à produire à la fois une pluralité et un mode de gouvernement, parce que c'est ça la question, c'est-à-dire que c'est pas rejeter l'un au profit de l'autre, c'est plutôt comment combiner ces deux contraires, entre guillemets, hein, c'est-à-dire finalement gouvernement qui impliquerait une délégation, quelles que soient ses formes, et une pluralité qui repose sur la singularité et le respect de la singularité des lieux, des personnes, des collectifs, etc. etc. Et je crois qu'en fait, c'est plus la forme de la présentation qui repose sur une objectivation, mais un travail d'objectivation, mais pas depuis le lieu dans lequel on est habitué à être, c'est-à-dire un lieu familier, mais plutôt de l'autre côté. Enfin, moi, ce que j'imaginais, c'était que la présentation de Sylvain Bull dans un collectif autonome, et ensuite la première présentation, où là, le travail de perception des deux exposés aurait été complètement inversé. Ce travail d'objectivation aurait été dénié dans l'un et pas dans l'autre, et là, c'est l'inverse qui s'est produit. Je crois que ce qui est important là, c'est que, d'ailleurs, toutes les deux ont commencé par dire « Moi, j'habite dans la ZAD, moi, j'ai... » Voilà. C'est...
Non, je crois pas. Non,
si, tu as dit, tu as passé 2 ans dans la ZAD, de 2016 à 2018, et tu as commencé par là, et c'est normal. Voilà, mais ce que je veux dire... Non, mais c'est normal, dans un conseil de quartier, chaque habitant dit « Moi, j'habite dans le quartier depuis 20 ans, donc... » Et c'est ce préalable qui introduit finalement le début d'objectivation qui va suivre. Mais je pense aussi qu'il faut accepter la pluralité des modes d'objectivation et qu'il peut y avoir un mode d'objectivation qui repose sur, non pas sur la construction d'une familiarité axiologique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais plutôt sur l'immixtion du trouble, justement, c'est-à-dire introduire le trouble pour susciter la réflexion. Moi, c'est comme ça que j'ai compris vos deux exposés.
Je veux bien clarifier quelque chose. Moi, commencer en disant « j'habite sur la ZAD, je n'étudie pas la ZAD, j'y vis et j'y lutte », c'était justement pour souligner le fait que j'ai un point de vue situé et que du coup, je ne fais pas un récit ni objectif, ni... Donc, ça, pour moi, les deux positions, elles n'étaient pas du tout les mêmes. Enfin, c'est peut-être invoquer une familiarité, mais en tout cas, moi, je n'étais pas du tout dans une position de... c'était justement pour revendiquer mon point de vue situé que je disais ça. Donc,
Oui, mais c'est quand même une forme d'objectivation, c'est-à-dire, je ne parle pas de nulle part.
Oui,
parce que... position, et ce que je vais vous dire est construit par rapport à cette position, donc c'est une forme d'objectivation quand même.
Oui, mais bon, même de rien dire, c'est une forme d'objectivation, à mon avis. Donc, bon, enfin, on peut tourner en rond comme ça. Et que moi, je suis pas... je suis assez d'accord sur le fait que, bien sûr, et que d'un certain côté,
le récit de cette nébuleuse très hétérogène dont a parlé Sylvain, il est quasiment jamais fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, et que bon, peut-être mon récit il est plus familier, même si j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc idyllique. Enfin, c'est voilà, j'ai pas fait un récit à la Pinocchi, il me semble pas. Après, voilà, moi j'y vis et j'y crois à ce qui se passe, donc par contre, j'ai un peu un problème avec ce truc de si moi j'allais faire une présentation dans un milieu autonome, je me ferais sûrement jeter des tomates. Je peux vous assurer que des présentations sur la ZAD en milieu autonome, j'en ai fait deux ou trois, et que en fait, il n'y a pas du tout cette espèce de levée de bouclier. On peut être en désaccord, mais moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'idée que je me retrouve positionnée à l'extérieur de cette catégorie autonome, parce que je me retrouve pas dans la façon dont elle a été décrite de toute manière. Donc c'est très compliqué. Après, en termes de récit, moi je pense que c'est important qu'il puisse y avoir une voix de ce qui s'est passé à l'Est, avec tout ce que ça comporte. Je suis vraiment juste en profond désaccord avec les analyses qui ont été faites. Je pense que c'est pas la même chose. C'est pas juste ah, mais il y a deux récits et comme ils sont différents, voilà, il y en a un qui est accepté, l'autre pas, puis il y en a un qui est familier, il y en a un qui est agréable et l'autre pas. Enfin, bon, il y a peut-être de ça, mais moi j'ai quand même envie de souligner le fait que je ne me considère pas non autonome. Enfin, vraiment, moi je me considère comme étant très inspiré par les idées de l'autonomie. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses où je refuse un peu, non, je refuse catégoriquement la position dans laquelle j'ai été amenée par la présentation de Sylvaine. Je pense que c'est surtout ça, moi, qui fait que je sors un peu maigri, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été posées, et je suis désolée, qui ont un peu été posées comme des vérités et pas juste comme des possibilités d'analyse, avec lesquelles vraiment je suis en profond d'accord.
Non mais enfin bon, il faut aussi répondre à Frédéric. Mais moi je ne travaille pas sur un processus de validation de vérité. Mais les idées autonomes, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je suis en désaccord aussi profond avec ce qui a été dit. Être autonome, et encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les grammaires politiques, c'est-à-dire les normes, les valeurs, parce que précisément, ce sont des milieux, alors peut-être c'est présenté avec austérité, mais qui ont des valeurs, pas des idées, des valeurs, qui s'appuient, et ça on le connaît, on peut remonter une culture politique, historique ou pas, dont certains se revendiquent, ça peut être Proudhon, ça peut être Fourier, ça peut être le Comité Invisible, ça peut être Rosa Luxembourg, etc. Ça, ce sont des idées, ce sont des emprunts. Mais ensuite, il y a la règle de la solidarité, de la redistribution, de la non-domination. Et ça, ça se décrit. Je m'excuse, là, j'ai pas eu le temps de le décrire. Ça se décrit. Voilà. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il y a des différences aussi dans les collectifs. Encore une fois, c'est dans la façon de penser la solidarité. Mais vous n'êtes pas dépositaire, vous n'êtes pas le penseur, la penseuse de l'ordre moral de la zone. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais moi,
je ne le prétends pas.
Je suis désolée, vous ne pouvez pas dire que, par exemple, les pratiques de solidarité, de redistribution.
Je n'ai jamais parlé de pratiques de grammaire, pas jamais. C'est un terme que je n'emploie
de plus. De redistribution et de solidarité, ça n'a pas
fonctionné. Bah, c'est très bien. Mais non, pourquoi ce sont des valeurs? Oui, pratiques, je ne sais pas. Les pratiques, c'est quelque chose qui peut être. Mais ce que je veux dire, ce qui me semble important, non, mais. Parce qu'on a l'impression qu'il y a ceux qui auraient le droit de parler de la ZAD et ceux qui n'ont pas le droit. C'est exactement, alors si on a des sociologues dans la ZAD, dans la salle, c'est exactement ce que disait Fabrice Saada sur la sorcellerie à un moment donné. Si. Alors, précisément, dans ce type de situation, en marécage, en bocage, etc., il n'y a pas de point de vue qui soit plus. Qui soit supérieur ou pas. Il y a des auteurs collectifs, il y a des acteurs collectifs, et tout simplement, il y a des formes de narration, d'énonciation, selon les points de vue, les situations, entre guillemets, les parcours que l'on a, qui peuvent s'exposer. Donc, il n'y a pas de vérité ou de contre-vérité. Il y a tout simplement l'idée de dire que, il faut repartir au texte de Bourdieu, comprendre. Quelquefois, voilà. Dans la familiarité, on projette beaucoup plus de choses que précisément quelque chose qui est plus austère et synthétique, où on n'essaye pas de prendre les habits de l'occupant, du dominé, de l'interviewé. C'est ça. Il peut y avoir beaucoup de prosélytisme et de démagogie à vouloir systématiquement pratiquement. C'est ce que dit Bourdieu dans le texte, c'est ça la narrativité. Pourquoi un témoignage aurait plus de valeur que celui d'un moine, etc.
La lumière sociale de Bourdieu, sauve à l'élive, voilà, témoignage, d'une certaine manière,
oui,
il revient
oui.
sur...
Absolument.
Sur,
oui, mais on
dit ça, mais c'est là, vous faites dire des choses que je n'ai jamais dit, c'est pas possible.
Et pour répondre à la question de Frédéric, pardon.
Et après, on redonne la parole à la salle.
En effet, ce que je... Alors, visiblement, ce qui me semble, c'est les interrogations, tout ça. Peut-être qu'il faudrait en ce moment, et moi je n'ai jamais parlé des communs, jamais, j'ai parlé du commun. Donc peut-être qu'il faudrait, entre guillemets, si j'ose dire, mettre en jachère provisoirement le mot commun, dans la mesure où, comme l'a dit Jérôme, dans le cas de la ZAD, mais ça on pourrait prendre d'autres expériences, au fond il contribue peut-être à fragiliser, au mauvais sens du terme, à détruire des expériences parce qu'elles deviendraient trop encadrées, trop dirigées, etc. C'est en ce sens-là que peut-être il faut se contenter du commun minimal, parce que, en effet, si on prend les collectifs de la ZAD autonomes, mais là pour le coup de façon séparée, puisque tout le monde a sa propre logique de vie, tout le monde fabrique du commun, précisément au nom, je m'excuse, des grammaires, c'est-à-dire la non-monétarisation, la distribution des ressources, la solidarité, etc. Le fait de discuter ensemble selon les échelles, selon les lieux que l'on veut, etc. Ça, c'est du commun. Et il se trouve que dès lors que l'on a voulu penser l'agglutiner et l'agglomérer, cela est fragilisé. Donc peut-être qu'il faut tout simplement revenir à des façons de travailler le commun, à quelque chose qui est très modeste.
On va d'abord donner la parole à des gens qui n'ont pas encore parlé. Donc Dominique.
Dominique a déjà parlé.
Élise.
Merci beaucoup pour ce moment que je trouve qui est comme rare de personnes qui vivent, qui parlent d'un même objet, mais de points de vue complètement différents. Donc j'avais deux questions. La première, c'était concernant agriculteurs, donc toutes les deux. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que j'ai pas très bien compris, et si je comprends bien, il y a des agriculteurs qui sont sur zone et des agriculteurs riverains, mais dans les agriculteurs sur zone, il y en a qui ne sont pas cumulards et il y en a d'autres qui sont cumulards. Donc, voilà, c'est ce que vous pouvez préciser. Et l'autre question, c'était par rapport à donc, vous, avec vos catégories, le livre caché et l'utopie réelle. Je trouve que c'est assez similaire. Est-ce que vous pouvez préciser les différences? Merci.
Oui, c'est aussi sur un peu dans la suite de cette question de la catégorie d'agriculteurs, quels sont voilà, les profils en fait, des personnes. Et autre question, à un moment donné, vous avez dit il y a des... les profils sociologiques des personnes ne sont pas les mêmes hein, entre ceux de l'Est, etc. Donc est-ce qu'il y a des études là-dessus, en fait, voilà, sur la sociologie de la ZAD, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu saisis de ça pour essayer de comprendre voilà, qui va plutôt dans quel collectif, voilà, il y a des questions de capital social ou pas, voilà, donc ça serait une curiosité de ma part.
Il y avait encore deux personnes qui ont déjà parlé. Est-ce qu'on peut leur
donner
la parole
ou...
Oui, si elle parle.
Je ne vais pas relancer la conversation.
Attends, tu attends le micro. Peut-être.
Je ne vais pas relancer. Evan, ce que je trouve étrange, c'est pourquoi cette obstination à s'attacher, même si vous l'utilisez comme méthode, enfin comme épistémologie, j'en sais rien, la grammaire. Et d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez... dans le même temps associer Hansing, parce que c'est vraiment l'envers des grammaires Hansing, c'est-à-dire c'est la pluralité des points de vue, des champignons, des écologues, etc. Je veux dire, comme son nom l'indique, la grammaire est hostile à la diversité et à l'interdépendance. C'est quand même, on cloisonne. Bon, je ne vais pas me lancer, mais voilà, donc très bien, c'est une méthode. Peut-être parfaitement légitime pour l'utiliser, mais effectivement, ce n'est pas une méthode universelle qui permet de comprendre le monde. Je regrette.
Je voulais juste réagir à l'idée de mise en jachère, parce que moi, ce que je, en partie, ce que je dénonçais ce matin, c'était le fait qu'il y a un processus ou un phénomène de récupération, notamment par l'État, et vous en avez reparlé encore cet après-midi, de la notion de commun, et je pense que quelque part, je pense qu'il y a un enjeu stratégique à ne pas laisser accaparer le vocabulaire, c'est pas une question de grammaire, mais à pas laisser accaparer les vocabulaires de lutte, notamment par, en l'occurrence là par l'État, ou en tout cas, c'est, pour moi, c'est dans ce sens-là qu'il y a, il y a un enjeu d'autonomie, et c'est dans ce sens-là, en tout cas, que moi j'en parlais ce matin, parce que sinon, c'est pour ça que du coup, je me demande dans quelle mesure, c'est pas finalement laisser le champ libre. À ce qui est en train de se produire aujourd'hui en termes politiques.
Donc, dernier volet de réponse, pas trop long, pour que des gens.
Je veux bien quand même dire que je n'ai jamais revendiqué la supériorité de mon témoignage par rapport au vôtre, ou que je voulais faire taire des témoignages. Pas du tout. Par contre, je veux bien pouvoir dire quand je suis en profond désaccord. Pour les agriculteurs, en fait, il y a ce qu'on appelle donc, sur la zone. La zone, c'est vraiment la zone d'emprise du projet d'aéroport, donc les 1650 hectares. Il y a des agriculteurs qu'on appelle les agriculteurs historiques, donc ceux qui ont lutté jusqu'au bout contre le projet et qui n'ont jamais accepté l'expropriation. Donc, qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, en 2016, sont devenus expulsables au même titre que les gens qui étaient arrivés et qui squattaient des bâtiments et qui ont été à l'abandon du projet régularisé, parce que ça, c'est régularisé dans le sens où, comme la déclaration d'utilité publique était tombée, les fondements des expropriations tombaient avec, et donc, de facto, ils gardaient leurs terres, et donc c'est ce qu'on appelle nous les agriculteurs historiques, ceux qui ont vraiment rejeté toutes les mesures d'expropriation. Il y a ce qu'on appelle les cumulards, donc qui sont des agriculteurs qui ont accepté l'expropriation, c'est-à-dire qu'ils ont vendu leur ferme, ils ont été compensés à l'extérieur et ils ont continué à exploiter des terres sur la zone d'emprise dans l'attente du projet. Il y a aussi d'autres agriculteurs qui ont fait valoir leur droit à la rétrocession sur certaines des terres qui n'avaient pas été cumulables. Il y a également les agriculteurs soutien, donc qui sont eux plutôt à l'extérieur de la zone. Donc certains des cumulables, enfin la majorité des cumulables, tous les cumulables, pardon, on leur ferme à l'extérieur de la zone, nécessairement, puisqu'ils ont vendu leur ferme qui était sur la zone. Il y a aussi des agriculteurs qui n'ont jamais eu leur ferme sur la zone, mais qui ont toujours été en soutien de la lutte, et dont certains sont regroupés dans un collectif qui s'appelle Copain, donc le collectif des agriculteurs indignés par le projet d'aéroport. Ça ne marche pas vraiment, mais parce que je crois que la chronique doit s'arrêter à indigner. Et voilà, c'est ça un peu le... la cartographie des agriculteurs sur
Non, sur commun, je suis d'accord. Hein. C'est juste, il me semble... Par exemple, moi, je fais partie... Enfin, on m'a invité à coordonner un diplôme de Sciences Po, Paris, qui va s'appeler Le commun. Politique et philosophie du commun. Où rentre dedans, alors, c'est tout un espace de modèles qui se veut expérimental, à peu près tous les collectifs expérimentaux en pointe de France, etc. Et là-dedans, on voit qu'il y a des très très grandes différences. Il y a Smart City, il y a des collectifs ou des communs, entre guillemets, mais des expériences les plus spectrales. Donc je me dis qu'à chaque fois, évidemment, c'est pas compris, il faut faire ce travail de qualifier ce dont on parle. C'est tout. Je dis pas que quand j'ai dit mettre en jachère, c'est surtout au niveau théorique, parce qu'il me semble qu'on est quand même dans des grandes confusions, justement. Et puis alors, mais sur grammaire, moi, on peut en parler pendant des heures, je vois pas en quoi c'est incompatible. Singh, elle parle d'état du monde. champignons, c'est pas un détail. Les grammaires, ça n'a rien à voir. Le parti de la théorie pragmatique, l'analyse, ça n'a strictement rien à voir. Les grammaires permettent de décrire des valeurs qui ensuite se distribuent dans des actions. Il se trouve que nous travaillons sur des formes occupation ou sur des collectifs qui mettent l'action, et c'est pour ça que je ne comprends pas, moi, ces termes de discours, d'études, etc., où l'action est la première forme des expressions. Donc, la grammaire consiste à décrire, à trouver les coordinations et les cohérences des actions. Si on parle d'état du monde, donc on peut tout à fait prendre les deux. Ce n'est pas incompatible, on a le droit, il n'y a pas de police de la pensée scientifique. Voilà. Et de même qu'il n'y a pas de porte-parole. Et texte caché, texte public, bah, évidemment, c'est Scott, les arts de la résistance. Là, il faut renvoyer au livre, alors, parce que ça prendra un certain temps. Le texte public, c'est celui qui, toujours de la part des dominés, entre guillemets, hein, chez Scott, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès aux scènes de visibilité, cherchent à prendre les habits, la façade, ce que Scott appelle la perruque, les habits, les attributs de celui qui est dominant, enfin la perruque c'est Goffman et de Certeau, mais c'est assez proche, pour essayer de produire un contre-discours, un contre-récit, mais publiquement. Le texte caché va rester ce que Scott appelle en infra-politique, caché, parce que précisément il est suffisamment fragile ou pas assez robuste pour pouvoir être porté en public sans être atteint dans sa portée. Voilà, pour aller très très vite. Et donc il me semble que par exemple le texte public qu'il y a eu à Lazare, c'est l'ensemble des récits, c'est aussi les formes de régularisation, etc. Mais il y a d'autres textes cachés qui ont lieu actuellement, la façon dont la zone S se reconstitue ailleurs, etc. etc. Voilà. Et pour ce qui est des études, là aussi, enfin, ça n'existe pas à étudier les trajectoires. Encore une fois, il faut bien dire que, précisément, et c'est ça peut-être qui heurte, on ne connaît pas la façon de faire de la sociologie dans ce type de situation. Nous ne sommes pas sociologues, nous ne pouvons pas venir en tant que sociologues, nous sommes là, on arrive, on fait quelque chose, on a un autre nom, etc. On décrit les choses, on rentre, on sort, etc. Mais on ne peut pas faire un entretien en ZAD, c'est impossible comme à Bure. Donc on est co-participants, et encore une fois, là où il n'y a pas de hiérarchie entre ceux qui seraient les grands habitants, ceux qui entreraient, sortiraient, il n'y a pas de tiers personne, etc. Il y a des points de vue différents, il y a des histoires différentes, et personne ne vous demande jamais ce que vous avez fait, d'où vous venez, etc. Par contre, encore une fois, moi, en tout cas, évidemment, c'est mal perçu, mais j'y tiens. Pour moi, en ce qui me concerne, il serait hors de question de produire, par exemple, avec un habitant avec qui j'ai habité à l'ASAD, un énième récit de l'ASAD. S'il y a objectivation, c'est peut-être ça qui n'a pas été compris, c'est pour permettre de comprendre les ressorts de l'autonomie politique en particulier. J'aurais pu prendre, mais je connais moins les utopies, ceux qui vivaient dans d'autres collectifs. Ce qui nous intéresse, c'est de ramener de l'objectivation dans des situations qui ne veulent pas être objectivées. C'est ça le but. Et je m'excuse, je fais mienne le texte de Bourdieu, le témoignage, et nous en sommes, y compris le témoignage n'a pas de valeur de supériorité par rapport au travail, fut-il hirsute, que ferait un philosophe, un sociologue, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on veut parler de pluralisme, il faut aussi parler de pluralisme en termes de mode de faire, d'action, d'agir, et de pluralisme épistémologique. Moi, je ne m'exclus pas d'exercices d'austérité, de scolastique de la ZAD, parce que ça peut aider. En quoi le énième témoignage, le énième diaporama de la ZAD va aider à comprendre les ressorts, la critique interne et la critique ordinaire ou radicale qui se mène? C'est ça le point. Alors, évidemment, ça trouble. Mais je ne crois pas, nous ne sommes pas dans une église. Il ne me semble pas. On n'a pas besoin d'ordonnateur de moralité. Voilà.
Bien, de toute façon, c'est le propre de toute controverse, d'utiliser toutes les ressources de la rhétorique, donc il ne faut pas s'inquiéter, il y a des questions de fond, et ensuite, sur les formes que ça prend, c'est le propre de toute controverse, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. En tout cas, c'était très riche, et justement, les disputes aussi sont très riches, et nous donnent plein d'enseignements, donc merci beaucoup, merci à toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin.